Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir Patrick Koller.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour la grande interview. On est dans un lieu un peu particulier parce que vous êtes le patron de Faurecia, directeur général, le premier équipementier français, le 7e au niveau mondial. Et là, on est au Dock d'Aubervilliers, le salon Eiffel, où vous présentez les innovations de la voiture de demain, et notamment celles que vous avez présentées à Las Vegas, et vous avez été primé pour 4 d'entre elles. Alors expliquez-nous un peu, faites-nous un peu rêver sur la voiture qu'on aura, nous, dans 4-5 ans.
Alors d'abord, c'est une voiture qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement.
Oui.
On a fait un focus tout particulier sur ce qu'on appelle le design pour Scope 3, donc utiliser des matériaux à faible contenu de CO2. Et on a des applications ici qui vont jusqu'à moins 70% par rapport à un équivalent conventionnel ou traditionnel.
Ouais.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point...
Oui, j'ai même vu des portières qui étaient faites à partir de plastique récupéré sur les plages ou avec des coquilles d'huîtres.
Avec des coquilles d'huîtres. Vous avez aussi des surfaces qui sont faites avec des résidus d'ananas. Donc on a un tas de possibilités avec du biosourcé. Et vous avez vu, ce sont des surfaces de très grande qualité. Ce sont des surfaces que l'on peut comparer avec du cuir. Donc c'est tout à fait intéressant. Le deuxième élément important, c'est tout ce qui est infodivertissement dans l'automobile. Donc,
On pourra regarder BFM Business.
L'un pourra regarder BFM Business pendant qu'un autre pourra regarder un film. Un troisième pourra avoir un jeu vidéo et sans se gêner les uns les autres.
Alors moi, ce que j'ai vu, enfin, il y a un logiciel qui m'a intrigué. Je crois qu'il est l'équipe, là, le prototype qui est derrière vous, Patrick Koller. C'est un logiciel où on voit si le conducteur, il est de bonne humeur, s'il est irrité, s'il est fatigué. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il arrête la voiture, le logiciel?
Alors non, il n'arrête pas la voiture, mais il va vous proposer un certain nombre de possibilités pour changer votre humeur. Par exemple, en utilisant la lumière à l'intérieur, en utilisant le son, en utilisant la posture que vous avez dans le siège, donc pour essayer de vous mettre dans une situation de plus grand dynamisme ou de vous calmer si vous êtes irrité au volant.
Alors Patrick Koller, ici je disais c'est un lieu un peu secret en fait, même s'il y a des gens qui sont derrière nous, mais enfin ce sont vos fournisseurs, vos clients, parce que c'est les innovations que vous allez proposer à certains de vos clients, enfin de constructeurs automobiles avec lesquels vous travaillez. L'innovation, c'est ce qui va sauver les constructeurs automobiles?
L'innovation, elle est fondamentale. Mmh. Elle est d'abord aussi nécessaire compte tenu des transformations que l'on est en train de vivre. Que ce soit l'électrification, des changements très importants au niveau de l'architecture électrique et électronique, le contenu en algorithme et en programme, les matériaux que l'on doit forcément changer parce que l'on va vers du low CO2, donc de la faible empreinte carbone. Et ça nécessite des infrastructures, des architectures et des solutions différentes.
Moi, ce qui me frappe, c'est j'ai interviewé récemment Luca De Meo. C'était il y a un peu plus longtemps Carlos Tavares, le patron de Stellantis. On voit bien qu'il y a différents modèles. Il y a un gros groupe qui est Stellantis, et puis il y en a un effectivement qui est plus petit, mais même beaucoup beaucoup plus petit. Alors Luca De Meo, il a un argument. Il dit mais regardez Tesla, la voiture la plus vendue, et la capitalisation boursière est bien supérieure à celle de Stellantis. Aujourd'hui, on va vers un modèle de voiture, des constructions de voitures avec beaucoup moins de pièces, des modèles bien plus simplifiés. Et à la limite, il y a une ou deux voitures stars. Est-ce que vous adhérez à ce discours?
En fait, ce que l'on observe, c'est qu'on a une beaucoup plus grande diversité de constructeurs que ce que l'on avait il y a 10-15 ans.
Il n'y a plus les mastodontes.
Il y a plus, enfin, il y a encore de très grands constructeurs. Mais il y a principalement des constructeurs qui viennent du monde de l'électronique et du software et les constructeurs plus traditionnels qu'on appelle les legacy. Et c'est pas tout à fait les mêmes animaux. Ceux qui viennent de l'électronique ont une approche totalement différenciée et peuvent fonctionner sur des motorisations électriques, sur des volumes inférieurs, mais avec des voitures qui sont les mêmes au niveau mondial. C'est le cas de Tesla.
Ouais. Et c'est le cas des Chinois.
Et c'est le cas de certains Chinois, pas tous les Chinois, viennent du monde de l'électronique. Un certain nombre sont également de type legacy, mais c'est pour ceux que l'on nomme la plupart du temps comme, par exemple, BYD, c'est le cas.
Ouais. Est-ce que c'est ce qui explique cette déferlante chinoise qui menace l'Europe?
Je ne sais pas si on doit parler de déferlante.
Enfin, en tous les cas, beaucoup utilisent cette expression, Patrick Collard.
Ouais. Je pense que les Chinois ont une opportunité d'importation de leurs voitures d'entrée de gamme, des segments A, parce que nous n'avons pas aujourd'hui en Europe d'offres dans ces segments-là.
Ouais.
Mais pour vendre ces segments-là, il leur faut aussi une empreinte, une reconnaissance du marché des consommateurs sur des segments supérieurs, les segments C et D par exemple. Et donc ils vont s'implanter en Europe, mais pas forcément avec des volumes énormes.
Oui, on va rappeler que vous travaillez beaucoup avec, vous avez des partenaires chinois, des constructeurs automobiles. Et je m'en souviens, je vous avais posé la question lors de la grande journée de la filière automobile sur la question est-ce qu'il faut mettre une taxe aux frontières, est-ce qu'il faut mettre un bonus qui exclut ce que voulait Bruno Le Maire, qui exclut notamment les Chinois. Et vous avez dit surtout pas parce que nous, on travaille avec les Chinois.
Alors pas surtout pas parce qu'on travaille avec les Chinois. Je crois que ce qu'il faut, c'est que on applique les principes de réciprocité.
Ouais.
Je crois pas qu'il faille
c'est compliqué.
C'est compliqué. Je crois pas qu'il faille que nous soyons naïfs par rapport à l'industrie chinoise. Ceci dit, quand on parle des entrées de gamme, on n'a pas d'offres.
Ouais. Hein,
et il faudra bien que l'on trouve le moyen d'offrir aux populations des possibilités abordables de mobilité électrique.
Ouais. Est-ce que vous sentez ce coup d'arrêt à la voiture électrique, il y a une espèce d'engouement au départ. Alors, il faut dire qu'il y avait des aides du côté allemand, du côté français, le fameux leasing social, puis qui ont été arrêtés net. Et du coup, eh bien, les achats de voitures électriques se sont arrêtés.
C'est une erreur. Imaginez l'industrie automobile comme un espèce de super tanker. Vous changez pas de cap instantanément. Ça prend du temps. Mmh. C'est une industrie lourde en B2C. On nous a demandé d'aller dans une direction. La Commission européenne a régulé dans ce sens. Elle ne peut pas changer les règles du jeu, ou les États ne peuvent pas changer les règles du jeu du jour au lendemain.
C'était ce que dénonçait très fortement Carlos Tavares.
Il a raison.
Mais a raison, parce qu'en disant 2035, la fin des voitures thermiques, c'est de la folie. Est-ce que maintenant, vous dites, bon, allez, essayons d'aller jusqu'à 2040. C'est quoi votre position, vous, en tant qu'équipementier?
Moi, je pense que l'Europe, maintenant que la décision est prise, doit aller plein pot sur la voiture électrique. Si on devait découvrir en 2032, 2033, je ne sais pas exactement quand, que peut-être on n'y arrivera pas, ça n'est pas grave. On retardera de quelques années, mais ce qu'il nous faut, c'est atteindre une masse critique suffisante pour pouvoir offrir aux consommateurs des solutions compétitives.
Faut-il, donc vous dites, il faut maintenir le cap tel qu'il a été défini, on est des gros tankers, on ne peut pas changer les règles tout le temps. En même temps, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'aujourd'hui, les règles au niveau européen ne sont pas trop complexes? Quelqu'un a utilisé cette expression que j'ai beaucoup appréciée en disant, aujourd'hui, on est en train de déréguler ce qu'on a régulé, tellement c'est compliqué. Vous en souffrez aussi?
Bien sûr. On en souffre et on en bénéficie.
Ah bon ?
Oui, parce que la Commission européenne rajoute sans arrêt des technologies dans la voiture. Ouais. Donc ce sont des technologies que nous développons et que nous vendons. Ouais. Donc il faut qu'on soit prudent lorsqu'on se plaint. Mais ceci dit, quand on regarde le poids, quand on regarde l'accroissement du poids sur les 15 dernières années, lié à des réglementations et à des technologies, c'est vraiment trop. Et Renault me montrait un document récemment où il y avait jusqu'à 5 modifications par an.
Ouais.
Et donc ça, c'est exagéré et on n'est pas dans ces configurations-là en dehors de l'Europe.
Vous avez publié vos résultats 2023, c'était il y a quelques semaines maintenant, plus de 27 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez 25% de vos chiffres d'affaires qui est aux États-Unis. Aux États-Unis, est-ce que ce système d'IRA, comme on dit, Inflation Reduction Act, est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus simple, c'est ce qu'on dit, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un tropisme américain un peu inquiétant du côté des entreprises européennes?
Alors oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple,
c'est beaucoup plus rapide.
Hein, et c'est un problème. Et on a vu un certain nombre d'investissements qui avaient été prévus en Europe être transférés vers les États-Unis. Je pense que l'Europe a besoin d'imaginer un équivalent pour pouvoir réindustrialiser l'Europe.
C'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire niveau de Forvia.
Non, on n'est pas directement impliqué dans ces éléments-là. Mais on voit, par exemple, les fabricants de batteries, un certain nombre d'industries lourdes, comme par exemple les semi-conducteurs, qui peuvent être bien sûr intéressés par les incentives américaines.
Il y a une question quand même très importante, parce que vous avez annoncé 10 000 suppressions de postes, ce qui est quand même assez colossal à l'aune de Forvia. C'est l'intelligence artificielle qui vous conduit à ça? On n'arrête pas de dire que l'innovation, la technologie est en train de bouleverser tout ce secteur de l'automobile. Est-ce que c'est un argument, est-ce qu'il y a un vrai argument, ou alors c'est une raison de faire passer la pilule?
Non, l'argument numéro un, c'est le fait que l'on est passé en 2019 de 21 millions de voitures en Europe, ça incluait la Russie à ce moment-là, à 16,5 millions sans la Russie en 2023. Donc vous avez une baisse d'une vingtaine de pourcents et c'est une baisse structurelle. C'est le nouveau volume que l'on produira en Europe et il sera stable. On ne le dépassera pas dans les années à venir.
Donc, pourquoi? Parce que la population, elle grandit, même si en ce moment, il y a un problème démographique.
Oui, mais il y a aussi eu des délocalisations. Les Allemands en particulier produisent leur 4x4, par exemple, Mercedes, BMW,
avec qui vous travaillez beaucoup, on va le souligner.
Avec lesquels on travaille aussi, bien sûr. Ils les ont délocalisés en Amérique du Nord et en Chine. Donc on n'a pas tout à fait le même profil. C'est pas juste une baisse de la consommation de voitures, même si elle existe aussi, mais c'est un nouveau palier, c'est un nouveau niveau mature européen.
Donc vous aussi, vous dites, en fait, les productions se délocalisent, soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud, soit en Chine, et on a l'impression que l'Europe reste un tout petit peu inerte par rapport à toutes ces transformations.
Alors, elle se délocalise pas vraiment. Si vous regardez aux États-Unis, on est pareil. On est à un niveau aux environs de 16 millions de voitures. C'est le niveau mature du marché américain, nord-américain. Oui. L'Europe, c'est pareil. Donc, on a maintenant atteint, on a fait un décrochage et on est maintenant sur un niveau pérenne, probablement durable, en dessous de 17 millions de voitures.
Et l'intelligence artificielle, alors? Quel impact cela a-t-il réellement?
Massif. Ça va avoir un impact massif.
Pour vous, j'entends, pour votre business.
Pour toutes les industries qui s'y intéresseront. Ce sont en particulier les industries qui ont un contenu technologique important, donc un contenu de R&D important et un contenu industriel important. Et là, le potentiel de productivité est tel qu'il faut y aller. Si on n'y va pas, on risque d'être éliminé de la compétition.
Oui, mais en même temps, là, vous démontrez toutes les grandes innovations. Est-ce qu'il y en a à partir de l'intelligence artificielle, là, derrière nous?
Alors, l'intelligence artificielle, on a l'impression de la découvrir avec ChatGPT.
Oui. Hein?
Donc ça, c'est la dernière partie. C'est l'intelligence artificielle générative. Bon, mais on utilise l'intelligence artificielle depuis longtemps. Des choses un peu plus simples, comme par exemple robotiser du transactionnel ou réduire la variabilité de process industriels, etc. Et maintenant, on arrive à un stade qui est un stade de création, c'est-à-dire que ce système d'AI générative est capable de coder. Ou est capable de faire de la conception sur des modules de taille raisonnable.
10 000 suppressions de postes, vous vous arrêtez là ou il y en aura d'autres, et c'est sur à quelle échéance?
La raison pour laquelle on a parlé de ça, c'est parce que ces réductions de postes sont liées à la restructuration que l'on doit financer. Donc c'est assez simple. Si vous prenez les montants de restructuration que nous avons annoncés, vous les divisez par une moyenne de 100 000 euros par personne en Europe, et vous allez trouver les 10 000 personnes. Mmh. Hein? Donc c'est pour ça qu'on a fait ce calcul et que l'on a communiqué sur cet élément-là. Une fois que c'est fait...
Mais ça sera fait quand ?
Ça sera fait d'ici 2028. Mmh. D'accord ? Mmh. Une fois que c'est fait, à partir du moment où on a un nouveau palier qui correspond à nouveau à ce marché mature... Il n'y a aucune raison d'aller plus loin. Alors après, il y aura des productivités qui peuvent être liées effectivement à l'intelligence artificielle. Mais la principale motivation, hein, c'est de protéger nos positions fortes en Europe. Nous, en Europe, nous faisons 40% de notre chiffre d'affaires. Et donc c'est très important pour nous.
Le point clé, vous l'avez dit, Patrick Koller, c'est le coût de production, parce que derrière, c'est le prix d'une voiture. Or, tant que le prix des voitures, surtout les voitures électriques, sera aussi élevé, on n'en achètera pas, sauf si effectivement il y a des aides. Comment faire ? Il faut abaisser le point mort de production d'une voiture.
Alors, d'abord, je ne suis pas un constructeur automobile, mais j'observe
un peu ce qui se passe. Mais vous êtes dedans, vous voyez.
Oui. Je pense qu'il fallait rendre la voiture électrique attractive à un moment où son environnement n'était pas en place. Donc, il y avait des difficultés pour trouver des bornes de recharge, etc. Et donc, on a suréquipé les voitures électriques. Et donc, quand on dit une voiture électrique coûte 40% plus cher qu'une voiture thermique, c'est pas à équipement identique.
Ah, intéressant.
Premier point. Donc, je pense que les nouvelles générations, maintenant, seront beaucoup plus proches en matière d'équipement. Et je pense que l'écart de 40% se réduira probablement en dessous de 25%.
À quelle échéance, là encore ?
Les nouvelles générations à venir. Hein, donc on est dans ce processus-là. Et je pense qu'on a, du point de vue du coût des batteries, un espèce de pic actuellement qui est lié aux volumes qui sont relativement bas et au prix des matières. Et on peut espérer que ça baisse également. Je crois personnellement qu'à terme, un terme prévisible... l'écart entre une voiture thermique et une voiture électrique sera de l'ordre de 10%.
Oui, donc une réduction quand même très significative.
Absolument. Et quand vous voyez comment est l'écart de coût de l'utilisation de la voiture, 10% devient tout à fait possible et acceptable pour le consommateur.
Allez, juste pour conclure, il nous reste une minute. J'ai vu qu'il y avait il y a un volant avec il y a des écrans devant. Qui ressemble vraiment, on a l'impression de conduire une Formule 1. Ça va arriver bientôt ?
Alors, toutes les technologies que vous avez vues ici sont prêtes à être vendues et à être intégrées dans les voitures. Donc, c'est possible.
Mais est-ce qu'il y a des constructeurs qui vous achètent ça ?
Absolument.
Oui. Et ça sera pour quand alors ?
Ça ne va pas vous plaire, mais c'est un constructeur chinois qui démarre.
Ah, ouais. Et donc là, ça sera pour des voitures électriques ?
Ça sera pour les voitures électriques.
Oui. Merci beaucoup Patrick Koller d'avoir répondu à nos questions. Donc ici dans cet endroit un peu particulier où en plus les équipes de BFM ont pu tourner des images et je crois qu'on a été les seuls à avoir l'autorisation de filmer ces
Absolument.
Nouveautés qu'on verra un jour ou l'autre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Patrick Koller, donc le patron de Faurecia, directeur général, était notre invité.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.